L'appropriation, c'est presque devenu un gros mot. C'est vrai que c'est délicat. Chaque fois qu'on l'emploie, on se voit traiter de censeur, on se voit rétorquer liberté d'expression, de création, j'en passe, et des meilleurs. L'un des arguments préférés de celles et ceux qui s'opposent à la notion même d'appropriation culturelle, c'est l'argument historique, qui consiste à rappeler que depuis toujours, l'art se nourrit perpétuellement de l'art, sous forme d'emprunt, de détournement, d'hommage, de cut-up, de pastille, de pastiche, d'échantillonnage, de manipulation, de textes, de sons ou d'images. On a droit à Malraux qui disait « Tout artiste commence par le pastiche », à Mallarmé ou même à Montaigne qui disait « J'aimerais quelqu'un qui me sache déplumer ». Mais à cet argument, je vois une limite historique justement, qui est celle du pillage qu'on a permis pendant des siècles, sans même le considérer. Une appropriation qui ne disait pas son nom, normalisée, institutionnalisée, comme si de rien n'était. Celle-ci, évidemment, ne concerne ni Montaigne, ni Malraux, ni même Mallarmé, mais les artistes anonymes d'un continent dominé. Comment continuer de faire semblant que l'art africain n'a pas été pillé, spolié, volé, dans un contexte qui ne lui laissait pas la possibilité de se revendiquer comme art? N'est-ce pas un juste retour que de le respecter à la hauteur de ce que l'on a méprisé, d'assumer qu'il n'est plus cette obscure base de données dans laquelle chacun pouvait puiser, de rendre à Dakar, par exemple, ce qui est à Dakar?
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quel regard mon invité d'aujourd'hui porte-t-il sur cet enjeu, cette question brûlante de l'appropriation culturelle? Il est musicien et depuis 60 ans, il fait résonner le son cuivré profond de son saxophone au gré d'air qui puise leur inspiration aussi bien dans les rues du Cameroun que dans les caves parisiennes, les églises ou les champs de coton américains. Bonjour, bonjour Manu Dibango.
Bonjour cher ami.
Merci beaucoup.
J'ai plus rien à dire en
d'être
fait.
Là. Oh si, on va trouver, vous me connaissez. Quelle violence est-ce qu'il y a pour vous dans l'appropriation culturelle?
Et il y a l'amour.
Quand déjà. Même.
Il y a d'abord l'amour, alors ça se décline à plusieurs niveaux. Ça se décline par le vol. Ça se d'abord l'amour, et ensuite les forts et les faibles, et ensuite la loi. Donc il faut gérer tout ça.
Vous l'avez vécu, là, vous?
Oh ben oui. On ne pille que ce qu'on aime, d'ailleurs, hein, dans mon cas. parce que, bon, vous voulez parler de Sol Makossa, Mamako, Mamasa, et voilà un morceau qui a fait le tour du monde, qui est un peu le 22 à Nier, parce que c'est ici qu'il a été fait, mais c'est l'Amérique qui l'a découvert.
Il a été samplé, effectivement, dans Wanna Be Starting Something de Michael Jackson sur l'album Thriller. Comment vous avez réagi?
Plus que samplé, en fait, parce que Quincy Jones, c'est l'arrangeur. Tout le monde savait, il savait, et Quincy, qui est un très, très, très grand monsieur, tu vois, et il se trouve que je connais aussi, il avait dit à Michael Jackson que, vous savez, ce morceau, il appartient... Michael est passé au-dessus. Donc, évidemment, à grand artiste, grand problème. Yeah. On finit par le savoir. Moi, je le savais parce que j'avais une amie qui vivait à New York, qui travaillait à l'ONU, et qui m'envoyait tout le temps des cartes de postales de, disons, des vœux de Noël. Donc, en 83, je crois, elle m'envoie comme d'habitude. Et puis, elle me dit, ah, dis donc, c'est bravo pour ta collaboration avec Michael Jackson.
Qui n'en était pas une, ouais.
Ben, ouais, je savais même pas que le disque existait à ce moment-là, quoi.
Vous vous êtes senti dépossédé, Manu Dibango?
D'abord, j'étais très heureux. Parce que finalement, ça voulait dire que eux aussi, ils nous écoutaient. Parce que le vent était d'abord favorable. C'est nous qui les écoutions pendant longtemps. Et on croyait qu'eux, ils savaient pas qu'on existait. Bon, donc j'étais très heureux. Je m'en vais donc acheter le disque en question. Je regarde la pochette, je vois pas mon nom, et puis je vois que c'est habilement fait. J'étais pas très heureux. En fait, j'avais les deux sentiments.
Mais ça dit quand même quelque chose de la manière dont les Occidentaux considèrent le continent africain et ses richesses culturelles, musicales. Comme une base de données, je disais, dans laquelle on peut se servir, dans laquelle on peut puiser.
Là, ben, on vit dans nos cocotiers, donc on n'est pas la loi, en fait. C'est ça un peu, hein, à cette époque-là. Et ça va un peu, si on étend le problème, ça va aussi sur les objets qu'on appelle art ici. Oui. Mais c'est pas l'art pour l'Africain, en fait, au départ, parce que c'est pas, l'art suppose toujours ce côté mercantile quelque part. Et ceux qui fabriquent ces objets chez nous, ce n'est pas pour vendre.
Je sais que
vous voyez
avez...
ce que je veux dire. C'est vraiment très très différent. Donc, il y a une compréhension, il y a une incompréhension entre nous au départ.
Je sais que vous avez été interpellé ces dernières semaines par la question de la restitution des œuvres d'art africaines à leur pays d'origine. Qu'on parle de ça en France aujourd'hui, c'est déjà une victoire pour vous ?
C'est de toute façon une victoire, mais il faut faire attention parce que quand on va du côté occidental. Il y a encore une incompréhension. Ces objets-là, pour qu'on les restitue en Afrique, il faut que cette Afrique de maintenant, qui n'est pas celle au moment où on a fabriqué ces objets, qui n'avait donc pas le même usage, et voilà, et le procédé de création. Donc, si on doit retourner ces objets, il faut que l'Afrique soit prête à les recevoir, à les comprendre. Et pour ça, il faut un phénomène, il faut que dans les écoles, on apprenne ce que c'est la signification de ces objets. De façon à ce que quand ils arrivent, ceux qui vont avoir la maintenance de ces objets sachent de quoi il s'agit. Et souvent, on ne le sait pas encore, on n'est pas prêt. Enfin, pour moi, il y a des pays qui sont prêts. Il y a un pays comme le Bénin, il y a un pays comme le Sénégal. Qui sont en pointe pour ça. Mais je ne pourrais pas dire que tous les pays sont prêts à recevoir ces objets.
Manu Dibango, vous avez grandi au Cameroun dans les années 30, à une époque où votre pays était encore sous protectorat français. Vous êtes venu étudier en France et vous avez, je crois, la nationalité française. Pour vous, quel regard la France porte-t-elle sur le continent africain ?
Erreur, je n'ai pas la nationalité française. Je l'ai eue.
Ah d'accord.
Bah oui, parce que nous étions... Nous faisions partie de l'Empire français. Quand je suis arrivé ici, en 1949, on était encore dans la colonisation. J'ai fréquenté les Indochinois, ce n'était pas encore les Vietnamiens, c'était les Indochinois. On était là, et on a commencé à se connaître, les Sénégalais, les Camerounais, les Congolais, ici en France. Ceux qui ont eu la chance d'avoir des parents qui pouvaient envoyer les enfants. Donc on était français, effectivement. Jusqu'en 1960. Il y en a qui ont choisi de devenir français, il y en a qui ont choisi de prendre la nationalité d'origine, dont moi.
Parce qu'il était interdit d'avoir les deux nationalités, en fait.
Pas pour tout le monde. Il y a certains pays.
Au Cameroun.
Voilà, entre autres au Cameroun. Mais bon, le Cameroun n'existait pas en tant que tel à cette époque-là. Mais de moi-même, dans mes sentiments, je me suis dit, les Français qui vivent au Cameroun ou qui vivent au Sénégal ou qui vivent au Congo, ils n'ont pas pris la nationalité. Ils vivent très bien là-bas. Pourquoi moi, je ne peux pas vivre ici avec ma nationalité ? Ce n'est pas un problème, c'est un problème d'homme et c'est un problème de compréhension. La nationalité, c'est bien, mais l'être humain est au-dessus.
Comment la France regarde l'Afrique aujourd'hui ?
Quelle Afrique ? Il y a plusieurs Afriques.
Celle qui a été française.
On commence à regarder. Les regards changent parce que les temps changent aussi. Il y a de moins en moins de mallettes. Donc, ça veut dire que le temps change. Et les générations qui sont de maintenant n'ont pas connu les indépendances. Donc, ils n'ont pas connu tout. C'est un peu comme Hitler connaît pas. Voilà. C'est ça. Donc l'Afrique se construit difficilement, mais elle est en train de se construire différemment.
Évidemment, je vous pose la question parce que depuis Saul Makossa, dont on parlait tout à l'heure, ce morceau, vous êtes devenu l'un des plus vibrants ambassadeurs de la musique du continent africain. J'ai envie qu'on en écoute un peu de cette musique, peut-être un peu de ce Saul Makossa. Tiens, vous êtes d'accord ?
Allons-y.
C'est quoi le Makossa, en fin de compte?
En fait, c'est une danse pas traditionnelle, c'est une danse urbaine. Bon. Maintenant, moi, j'ai pas fait le Makossa, j'ai fait le soul Makossa.
Ah.
Une vision du Makossa.
Et quels sont les rythmes qui caractérisent cette danse, qui la rendent si singulière? Parce qu'en réalité, le Makossa, dans le
Makossa, ça veut dire remuer les hanches, tout simplement. C'est le mot. Donc, on remue les hanches de cette façon-là. Et il y a plusieurs rythmes chez nous. Enfin, au Cameroun, il y a au moins 4 rythmes principaux, mais c'est celui-là qui est passé, le premier. Mais il y en a d'autres derrière. Il y a le Mangambe, il y a la Siko, il y a autre chose. Mais c'est celui-là qui a été, en fait, the winner is. Vous savez, vous proposez plein de trucs. Et à propos de ce morceau-là, d'ailleurs, c'est une phase B. Comme quoi ça doit arriver. J'étais venu en France... faire l'hymne de la 8e Coupe d'Afrique des Nations. Bon, ben, c'est devenu la CAN, que nous venons de perdre là d'ailleurs. Donc, j'étais à 72 et puis il y avait encore des 45 tours, il y avait des vinyles. Les jeunes ne savent pas ce que c'est. Quand même, mes petits-enfants viennent à la maison qui me regardent toucher un vinyle, on dit papy, c'est quoi? Donc, on est passé à autre chose. Et bon, il fallait une face B. Et j'ai fait l'arrangement dans l'avion parce que j'avais constaté quand je répétais ce morceau, les mots m'y rigolaient, quoi. Et c'était un jeu de mots sur Makossa, hein, Mamako, Mamassa, c'est un jeu de mots. Il se trouve que, à cette époque-là, c'était l'époque où les Américains cherchaient leurs racines. L'époque de Shaft et tout ça. Et bon, donc, les Américains sont venus à Paris chercher des disques d'Africains vivant en Europe. Mmh. Hein, pour leur usage, et puis dans ces disques-là, il y avait ce 45 tours. Et comme je disais tout à l'heure, The Winner Is, c'est ce morceau-là qui où ils se retrouvaient le plus par rapport aux autres rythmes africains qu'on leur proposait à l'époque.
Avec quelle musique est-ce que vous avez grandi, vous ?
Deux musiques. J'ai grandi dans Alléluia, moi. Parce qu'on est protestant dans ma famille, on allait beaucoup à l'église, ma mère dirigeait la chorale, un tout petit peu comme les cousins américains d'ailleurs. On chantait les mêmes choses parce qu'on chantait Bach et Handel, on le savait pas parce que c'était traduit en camerounais. Donc on apprenait les musiques d'église avec notre langue.
Vous vous souvenez de ces chants encore aujourd'hui?
Ouais, quelque chose comme ça. Et puis Sango Emmanuel. L'hymne anglais qu'on chantait à l'église, on chantait également l'hymne allemand, parce qu'on était allemand avant quand même.
Hein. Oui.
Donc, il y avait les nostalgiques de l'allemand, de l'Allemagne, à la guerre 40-45, il y avait des gens qui étaient pour les Allemands. Ouais, il y a eu un film de ça d'ailleurs, qui a été tourné en Côte d'Ivoire dans les années 80, je crois. On le sait pas toujours, mais nous, on était Allemands, et puis à la Société des Nations. En fait, il y a pas très longtemps réellement que la France est venue au Cameroun, elle est venue à la fin de la Première Guerre mondiale, seulement.
Celle qui sait tout dans cette émission et qui chante tout le temps, peut-être que vous la connaissez, Manu, c'est la culture et son actualité. Castafiore et tombe la pluie, fausse comme pas deux. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 11 décembre?
Merci. Ma famille, et la Saint-Saëns, bien sûr, sans laquelle nous ne serions rien, ou presque rien. Les gilets jaunes, encore merci mille fois, infiniment.
La SACEM, comme on l'aime, émotion hier soir lors de la remise des prix SACEM quand Renaud est apparu sur scène. Blouson de cuir, lunettes noires, voix cassée, le rocker qui a reçu le Grand Prix spécial 2018 n'a pas chanté mais il a tenu à rendre hommage à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique en rappelant qu'elle est la mère nourricière des artistes. Renaud n'était plus apparu sur scène depuis un dernier concert à la fête de l'Humain en septembre 2017. Cœur avec les doigts.
It did make me a monster and it made me understand being a monster. But it's okay.
Monstre en main, sensation graphique de l'année, le roman Moi, ce que j'aime, c'est les monstres de l'américaine Emile Ferris a remporté hier le Grand Prix de la critique ACBD 2019, remis par l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée, entièrement illustré au stylo bille. L'ouvrage met en scène à Chicago des monstres, des créatures difformes et les fantasmes d'une petite fille qui enquête sur la mort de sa voisine. Art Spiegelman himself en a déjà fait son livre de chevet. En somme, le cadeau de Noël parfait.
Ce sont des tests que je connaissais et que... je rêvais de lire et puis je suis très vieux alors je vais m'arrêter, mais c'est dommage parce que j'ai encore beaucoup de textes que j'aurais envie de dire.
88 printemps, toutes ses dents et toute sa verve, l'acteur Jean-Louis Trintignant célèbre aujourd'hui son anniversaire en remontant sur scène au théâtre de la Porte Saint-Martin. L'homme qui a passé près de 7 décennies sur scène et devant la caméra, inoubliable amant pilote du film de Claude Lelouch, Un homme et une femme, propose jusqu'au 22 décembre Trintignant 1000 Piazzolla, un spectacle poético-musical avec l'accordéoniste Daniel Mille et le musicien argentin Astor Piazzolla. Happy happy, Jean-Louis.
Quand vous recevrez ma chérie, ne le flanquez pas au panier.
Et ce soir, on débranche le 105 avant la fermeture pour travaux du mythique studio 105 de Radio France, à qui vous avez dit au revoir dimanche. Manu Dibango, la maison, invite auditeurs et artistes à y faire furieusement la fête de 20h à 23h lors d'une soirée spéciale diffusée en direct sur France Inter et présentée par les amis Varro et Manzoni. On dansera sur la pop à texte d'Eddie de Préto, le rap mélo de l'homme pâle, le rock électrique de Lou Doyon, mais aussi avec le duo chic Benjamin Biolay, Melville Poupeau et même Gaëtan Roussel. En avant, la musique. Et le musicien Manu Dibango, invité de Boomerang. Donc ce matin, vous étiez effectivement avant-hier sur l'antenne de FIP afin de célébrer le studio 105 de Radio France qui s'apprête à être rénové. Et j'aimerais qu'on parle de l'objet qui est à côté de vous, qui est dans votre main droite, en réalité, depuis le début de cette émission et qui m'intrigue grandement, votre saxophone, qui est devenu pour vous ce que la trompette était à Louis Armstrong. Comment le saxophone est-il devenu votre instrument? Tiens.
J'aimais l'objet. Je m'arrêtais souvent devant les magasins de musique. Je regardais les instruments, bien les éclairages. J'avais des trombones, les trompettes et tout ça. Et l'instrument qui m'intriguait, c'était le saxophone.
Vous aviez quel âge?
Oh, je devais avoir 17 ans, comme ça, 17, 18 ans. J'étais au collège La Fontaine, à Château-Thierry. Voilà. Et donc, il y avait un magasin de musique là. Et donc, je regardais, j'étais fasciné par l'instrument.
Le regarder.
Vraiment, réellement fasciné par l'instrument déjà avant de le toucher, quoi. Il était sexy pour moi. Il est toujours sexy.
Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous l'avez touché, quand vous avez soufflé dedans?
Ah bah, ça n'a pas été une histoire d'amour foudroyante quand même, hein,
ah
parce
bon
que ça me chatouillait un peu les lèvres quand même. Il a fallu quand même qu'on se connaisse davantage, il a fallu que je sois têtu, que je maintienne, parce que bon, entre-temps, j'ai commencé par le piano d'abord. Et c'est dans une colonie de vacances en Normandie, vers Saint-Hilaire-du-Harcouët, vers Granville, que j'avais un copain qui avait un saxo. Il me dit, mais tu nous casses les pieds tous les matins avec le piano, essaye ça. Bon, j'ai commencé, comme je vous dis tout à l'heure, ça n'a pas été foudroyant.
Vous vous souvenez des premières choses que vous avez jouées?
Oui, c'était des blues, et puis c'est surtout un truc comme When the Sense, hein, parce que c'était le plus facile. Quelque chose dans ce goût-là, donc c'est facile à jouer. C'est comme ça que je suis entré dans le saxo. Et puis Sidney Bechet, il faut pas oublier que c'était les années 50.
Oui.
Les Sidney Bechet étaient ici. Il y avait beaucoup d'Américains et noirs et blancs musiciens qui étaient au Quartier Latin.
Ça renvoie aussi à votre amour pour le jazz,
Manu Dibango. C'est ça. Mais ça commençait par l'église, hein, parce que finalement, souvent, beaucoup de musiciens américains, en général, commencent par les églises.
Il paraît que le jazz vous a permis d'ouvrir et d'enrichir votre horizon musical. C'est ce que vous dites, souvent.
Quelle que soit la musique, à l'époque, elle aurait pu t'ouvrir, mais le jazz avait quand même une histoire, disons, internationale, parce que c'est quand même... comment on peut résumer le jazz? On pourrait dire que c'est une belle fleur qui a poussé dans le fumier. Le fumier, c'est l'esclavage. Bon, là-dessus est née une musique qui appartient à tout le monde, les Africains, Américains, et puis les Blancs Américains, les instruments, et tout ça, et le rythme, ce mélange a fait le jazz. Donc le jazz appartient un peu à tout le monde.
Vous l'entendez encore, cette histoire, chaque fois que vous jouez du jazz, cette histoire, cette grande histoire de l'esclavage?
J'ai pas besoin de l'entendre, hein. Elle est là. Je fais pas exprès, je veux dire que c'est l'histoire, elle est là, elle se perpétue différemment, parce qu'il y a toujours l'esclavage, différemment maintenant, hein. Les gens arrivent par des bateaux d'une autre façon, voilà, disons.
C'est une musique à travers laquelle s'exprime une immense liberté, ne serait-ce qu'à travers la liberté qu'elle offre à ses interprètes par le biais de l'improvisation. Comment est-ce qu'on improvise en jazz?
Il y a plusieurs façons, mais la meilleure improvisation, c'est quand même d'avoir un cadre dans lequel on peut se mouvoir. Hein, parce que c'est pas de prendre un instrument, de faire... Le free jazz, je sais pas si c'est l'improvisation. C'est peut-être... la vraie improvisation, à mon avis, c'est quand on... C'est, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait les 12 mesures du blues, parce que tout le monde a le même cadre, et tout le monde peut donc voyager, et on peut, disons, comprendre le langage de quelqu'un à travers les 12 mesures du blues. Et pour ça, c'est le standard dans l'improvisation, et les Américains, ils ont créé ces 12 mesures.
Par exemple, si on prend comme cadre le premier morceau que vous avez joué là, il y a quelques secondes, est-ce que vous pourriez, là, comme ça, improviser dessus? C'est possible?
Bien sûr, parce que je le connais.
Alors, ça ferait comment? Wow. C'est très beau quand même. Mais oui, vous savez quoi, on va continuer à vous écouter, hein, parce que là on a envie de vous entendre avec un peu plus de Manny Dibango. Tiens, un classique, The Panther, en 1973. Oui. On est sur France Inter avec vous dans Boomerang. Quel bon mardi.
Trapenard.
Il y a quelque chose d'assez impressionnant quand même dans sa façon de se tenir, de vous regarder, de vous parler. Une façon, vous savez, de se tenir toujours un peu au-dessus de la mêlée, d'apaiser le moindre conflit sans jamais élever la voix, de faire régner le calme en pleine tempête, quelque part entre le capitaine d'un navire légendaire, le juge magnanime et le roi de la chirurgie cardiaque qui aurait troqué ses scalpels pour un saxophone avec son pull rayé bleu dont il dit lui-même qu'il est panthère, le musicien Manu Dibango, invité de Boomerang, pour revenir sur une trajectoire, l'histoire d'une vie consacrée à la musique, une vie faite d'exil, de voyage, qui prend ses racines dans le Cameroun des années 30. À quoi ressemblait le Cameroun dans lequel vous avez grandi, Manu Dibango?
C'est le Cameroun de la colonisation. C'est le Cameroun On a le mot, mais le contenu n'est pas encore réellement un pays puisqu'on est colonisé. Le pays commence à se construire réellement à partir des années 60. Avant, on était au service du colonisateur. Alors là, la vie est comme dans tous les pays, il faut survivre. Moi, j'ai eu la chance que mes parents étaient fonctionnaires, enfin mon père était fonctionnaire, donc il avait certaines facilités. Il commandait des machines pour ma mère qui était couturière. Alors c'était Manu France à l'époque, Saint-Étienne.
Vous dites, tout à l'heure vous disiez qu'il était protestant. Quand est-ce que vous avez compris que vous aviez une double culture ? Très tôt en fait.
Très tôt, parce que tu parles français quand tu vas à l'école, à la maison tu parles ta langue. Donc forcément c'est deux... Et puis d'abord, avant, tu entres d'abord à l'école. À notre époque, on entrait d'abord dans l'école du quartier où tu apprenais à écrire et à lire en ta langue, en douala. Mmh. Donc tu avais une littérature, tu avais le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, la Bible en douala. Donc quand tu entres à l'école entre guillemets des blancs, tu sais déjà lire et écrire. Maintenant, il suffit après d'apprendre le français.
De quel destin est-ce qu'il rêvait pour vous, vos parents ?
Oh, comme tous les parents, que je fasse comme eux. Les toubibs veulent que les enfants soient toubibs. Lui, il était fonctionnaire, il rêvait que je sois surtout pas marginal.
Musicien,
ah ben, c'est
disons
ça.
Les choses clairement.
C'est ça. Donc, évidemment, c'était une grosse déception pour eux que j'ai choisi un métier pas sécur. Nous, on vit dans l'incertitude. Le musicien, il est toujours dans une galère qu'il faut gérer. Hein, les fins du mois, voilà. Donc, disons que nous, dans la branche de musique, nous sommes déjà, dès le départ, tu es dans la galère. Il faut la gérer.
La France, Manu Dibango, vous y êtes arrivé très tôt, je crois, autour de 15 ans. Quels souvenirs, quelles images est-ce que vous gardez de cette arrivée en France ?
Ah, l'arrivée, d'abord, on est arrivé par bateau, puisqu'il n'y avait pas encore d'avion. Donc ça faisait 21 jours de Douala à Marseille. Donc disons que c'est un voyage initiatique, parce que tu sors déjà de chez toi que tu connais pas, tu connais ta ville,
oui.
Et encore à 15 ans. Voilà, donc tu traverses toute l'Afrique, une partie d'Afrique équatoriale pour aller en Afrique occidentale. Tu as le Nigeria, tu as le Ghana, tu as le Bénin, tu as le Togo, la Côte d'Ivoire. Et puis, au fur et à mesure, tu t'éloignes de tes racines, quoi. Voilà, et tu arrives à Marseille et tu n'as que la photo de ton correspondant.
Dans une France de l'immédiate après-guerre, une France qui n'est pas très métissée, en réalité, qu'est-ce que vous avez ressenti ?
Qui sait pas ce que c'est, d'ailleurs.
Ouais.
Sauf les tirailleurs sénégalais. Je dirais même des tirailleurs dits sénégalais, parce que dans les tirailleurs sénégalais, il y avait évidemment tous les Africains francophones. Hein. Il n'y avait pas que les Sénégalais.
Dans le regard des Blancs, qu'est-ce que vous avez vu ?
Ben, il y avait de l'amour, parce qu'on sortait de la guerre, quand même. Donc, c'était pas le même scénario. Et puis ceux qui venaient ici, c'était des élèves et des étudiants qui n'avaient pas vocation à rester. Donc voilà, et qui avaient des correspondants, on habitait chez des correspondants, qui acceptaient donc un petit Africain, non pas pour adopter, mais pour recevoir à la maison, moyennant évidemment une pension. Hein, y en a qui payaient par 3 kilos de café, parce que le café était une denrée très très rare après la guerre.
Pour autant, vous avez eu le blues, non ?
Ben, on a forcément le blues parce que quand tu quittes un monde pour aller dans un nouveau monde et que tu es seul. Moi, j'habitais une petite ville, Saint-Calais dans la Sarthe, à côté du Mans. J'étais seul noir. Bon. Ça te donne des boules, hein, quand même. Ben, tu ne vois personne qui te ressemble. Par contre, j'étais bien reçu, tout le monde me recevait, bon, tout le monde me passait les mains sur les cheveux pour voir commencer. Moi aussi, je faisais pareil, parce qu'on se touche, mais on se touche sans arrière-pensée. Hein. On se tâte, on se connaît par les sensations. Qu'est-ce que c'est les cheveux frisés, que je n'ai plus d'ailleurs.
Bienvenue au club, Manu. Je vous rejoins là, j'arrive.
Et puis,
j'y suis presque.
Quelle est cette couleur? Quand on touche un peu, on se regarde si ça tâche pas. En fait, tous des trucs naturels. Parce que ça veut bien dire qu'on se connaissait pas à cette époque-là. Donc, peut-être qu'il y avait du racisme ou quoi, mais ça se sentait pas à cette époque-là.
La musique, elle arrive comment?
Oh, elle a toujours été là parce que je chantais dans les chorales et tout ça. Et puis quand je suis arrivé ici, je voulais faire du violon parce que mon professeur de chorale chez nous au Cameroun, il jouait du violon. Vous savez, on avait même des quatuors à cordes au Cameroun parce qu'on avait eu un passé allemand où il y avait beaucoup de musique chez les Allemands. Donc ils ont laissé des gens, des violoncelles, des violons. Et nous, à l'école, on apprenait la musique avec un violoniste. Donc quand moi je suis arrivé ici, j'avais envie de faire... Et dans d'autres pays, ils apprenaient avec la cora, ils apprenaient avec le balafon. Moi, il se trouve que c'est... en plus, mon oncle paternel, il jouait de l'harmonium du temps à l'église du temps des Allemands. Donc voilà.
En tout cas, la chanson, et en particulier la chanson française, vous l'avez côtoyée de très près. Vous avez joué avec Becco, Dick Rivers, Maxime Le Forestier, fréquenté les compagnons de la chanson et Charles Aznavour. Et c'est une version d'un titre de Charles Aznavour que vous allez nous interpréter. Ouais.
Nino Ferrer aussi, j'ai vécu longtemps avec Nino Ferrer. Hein?
Un titre de 1956 d'Aznavour qui s'appelle Sa jeunesse, que vous avez choisi de nous jouer ce matin.
Ouais.
On y va ?
Ouais, ouais, je pense beaucoup à lui d'ailleurs.
De commencer cette journée, Sa jeunesse de Charles Aznavour par Manu Dibango ce matin en exclusivité dans Boomerang. Merci infiniment Manu d'être venu faire un tour dans cette émission et avec un jour d'avance, bon anniversaire. Je rappelle que vous êtes en concert dans le monde entier, en Angola notamment fin décembre, mais aussi pour quelques dates en France, le 15 janvier à Compiègne, le 8 février à Limoges, le 16 avril à Sarcelles et surtout je sais que vous y tenez le 17 octobre au Rex à Paris pour vos 60 ans de carrière. Alors évidemment, on y sera. Merci beaucoup
d'avoir été là.